Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La Bible est divisée en différentes sections. Le livre de Jonas est classé parmi la section des petits prophètes. Beaucoup considèrent ce livre comme un conte, une fiction, une légende, et on n'y croit guère. On va même jusqu'à se moquer de ce récit. Cependant, Jésus s'y réfère et il sait de quoi il parle. L'apôtre Matthieu relate qu'une grande foule suivait Jésus. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» La généalogie du Messie annoncé devait passer par David, comme cela avait été prophétisé par Ésaïe, qui a écrit « Puis un rameau, il s'agit de David, sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton, le Christ, naîtra de ses racines. » Le livre des Actes ajoute « Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Revenons au récit de Matthieu. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme chasse le démon par Béelzébul, prince des démons. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Si l'histoire de Jonas et du grand poisson n'était qu'un mythe, les Juifs auraient éclaté de rire en entendant Jésus s'y référer. Le récit de Matthieu est corroboré par l'apôtre Luc qui le confirme au chapitre 11 de son évangile. Le livre n'est pas daté. Il a été écrit par le prophète Jonas, déjà mentionné dans le second livre des Rois. Ce récit aurait été écrit pendant le règne de Jéroboam II, roi d'Israël. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, c'est-à-dire à Joppé, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La ville de Ninive était située en Assyrie, sur la rive gauche de la rivière Tigre. Pourquoi, au lieu de se soumettre à l'Éternel qui lui demanda de se dresser contre la ville de Ninive et de l'avertir de sa prochaine destruction, à moins de se repentir, pourquoi Jonas prit-il la fuite? Jonas savait probablement que Dieu allait se servir de l'Assyrie pour punir son peuple, comme Ésaïe l'écrira plus tard. En ne secouant pas les habitants de Ninive, il espérait que ses habitants seraient détruits et qu'ainsi la nation d'Israël serait protégée. Jonas descendit à Joppé, actuellement Jaffa. Il trouva là un bateau embarquant pour Tarsis vers l'Espagne. Il espérait qu'en quittant le pays, Dieu abandonnerait son projet. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Dans ce cas précis, l'Éternel intervint, car il voulait que Jonas aille à Ninive, espérant que la ville se repentirait. Salomon a écrit, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » L'Éternel était intervenu pour désigner Jonas aux mariniers. Ils le questionnèrent. « Dis-nous qui nous attire ce malheur. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ? car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils connaissaient les faits, mais non la raison qui est dévoilée un peu plus loin. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas préfère la mort plutôt que d'accomplir la volonté de Dieu, ce qui, à ses yeux, finirait par être préjudiciable pour son peuple. Jetez-moi hors du navire et la mer se calmera. Jonas savait que Dieu ne calmerait pas la tempête aussi longtemps qu'il resterait sur le bateau. Les mariniers hésitèrent à le jeter par-dessus bord et firent leur possible pour atteindre le rivage. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu sais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. L'Éternel n'en avait pas encore fini avec Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On a dit que ce qui avait englouti Jonas ne pouvait être que le plus gros poisson connu. Cela ne pouvait donc être qu'une baleine. Mais une baleine ne peut pas avaler un homme. Alors, quel était ce grand poisson? Puisque Dieu créa les cieux et la terre, y compris l'univers entier, sans oublier toutes les créatures qui se sont trouvées sur terre au temps préhistorique et celles qui s'y trouvent de nos jours, Dieu pouvait créer instantanément, sur un simple ordre, un animal marin capable d'engloutir Jonas. Douter de cela, c'est limiter Dieu, c'est nier sa toute-puissance et son grand pouvoir créateur. De plus, l'homme n'a pas encore parcouru les profondeurs de toutes les mers. Alors qu'Abraham était vieux, avancé en âge, alors que Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants, l'Éternel leur promit un fils. Sarah ria en elle-même, en entendant cette promesse, et l'Éternel dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Lorsque l'ange annonça la naissance d'un fils à Marie, et lui rappela que sa cousine Élisabeth était enceinte, l'ange déclara, « Rien n'est impossible à Dieu. Êtes-vous convaincu de cela ?» Jonas resta dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, soit pendant 72 heures, car, bibliquement parlant, il y a 12 heures au jour et donc 12 heures à la nuit. Le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Le prophète savait dès lors qu'il était inutile de fuir. Il devait accomplir la volonté de Dieu, que cela lui plaise ou non. Pour circuler dans tous les quartiers de la ville, pour que tous entendent l'avertissement, il lui fallait 3 jours de marche. Continuons le récit. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. La chose parvint au roi Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Le peuple comprit que la prophétie allait se réaliser, s'il ne se repentait pas. En accord avec ses grands, avec ses nobles, le roi ordonna un jeûne général, y compris pour les animaux, afin que tous s'humilient et crient vers Dieu sous le jeûne imposé. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité, Il en fut vexé. Il implora l'Éternel et lui dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Voici l'explication du refus initial de Jonas et de sa fuite. Ils craignaient que Dieu leur pardonne, et que plus tard, les Assyriens ne se tournent contre Israël pour le détruire, ce qui arriva plus tard. En effet, la Bible déclare, « La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. » Après la mort du roi Salomon, Samarie était devenue la capitale du royaume d'Israël, le royaume du Nord, et Jérusalem resta la capitale du royaume de Juda, le royaume du Sud. Le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émède. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu. S'adressant à l'Éternel, Jonas ajouta, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Le prophète avait obéi à Dieu, et l'Éternel ne devait pas détruire cette grande ville. Mais cela ne plaisait pas à Jonas. Il espérait toujours sa destruction. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Dieu décida d'enseigner une autre leçon à ce prophète irritable. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas n'avait pas compris que Dieu aime vraiment tous les hommes et pas seulement les Israélites. Le but ultime de Dieu est de les accueillir tous dans sa famille. C'est là le grand plan de salut divin qui est expliqué par les fêtes annuelles de l'Éternel. Le Christ annonça ce qui arrivera aux Ninivites à la grande résurrection, destinée à tous ceux qui n'ont jamais eu la connaissance de la vérité. Il déclara, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Il est grand temps que vous vous rendiez compte que la Bible n'est pas un livre de légende. Elle est d'inspiration divine. Vous moquez-vous du récit de Jonas et du grand poisson? Si vous vous en moquez, vous vous moquez du Christ qui se servit de ce récit pour prouver sa divinité. Il ne s'agit donc pas d'un récit à prendre à la légère. Le Christ serait-il à vos yeux un affabulateur?